On peut sentir intérieurement que dans ma fratrie, je suis responsable aussi du lien entre mes frères et sœurs, ou on m'a mis comme responsable de la bonne entente dans la famille. Donc la loyauté, la question de la loyauté dans la famille, c'est quelque chose de très, 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 très vaste. Hein. C'est au fond tous les liens que j'établis avec les personnes dans une forme de réciprocité. Je sens que je suis appelé à redonner, en fait, rentrer dans une logique de don par rapport à ce que j'ai pu recevoir. Mais cette logique de don, évidemment, elle a besoin d'être équilibrée, elle a besoin d'un certain discernement. Et ce qui fait que les loyautés que nous vivons, dans ce sens que je viens de dire, hein, de l'engagement que nous prenons de venir en aide à ceux qui nous ont aidés, les loyautés nous définissent. On fait le choix. Il y a des choix que l'on fait dans le fait de rendre à l'autre. Il y a des choix que l'on fait parce qu'on privilégie, parce qu'on ne peut pas être à égalité avec tout le monde dans le don que l'on fait de soi-même à l'autre. Donc ce qui fait que dans ces choix que je fais, ça me définit aussi comme famille. Il y a des personnes desquelles je vais peut-être m'éloigner parce que je sens que le rapport ne me construit pas, ou on va voir des loyautés qui sont toxiques. Il y a des personnes desquelles je vais me rapprocher. Et donc, les loyautés nous définissent et définissent aussi les contours de ceux qui comptent pour nous et des personnes qui comptent pour nous. Ça définit qui l'on est aussi d'une certaine manière. Et donc, on redéfinit au fond les priorités que nous mettons dans les liens. Et on sait bien, on ne peut pas avoir 1000 amis, ou si on a 1000 amis, c'est qu'on n'en a aucun. Et donc, pareil en famille. Est-ce que il y a parfois des relations qui sont plus complexes avec telle ou telle personne, membre de la famille, qui, à un moment donné, m'a fait du bien, mais qui, en l'état, est un peu compliqué. Donc, du coup, est-ce que je lui dois quelque chose? Est-ce que je suis amené à lui rendre? Ou comment agir dans cette question-là? Donc, ces liens s'appliquent à notre famille, à nos amis, à nos proches, à des personnes qui comptent pour nous et en qui nous avons confiance. Ça, c'est important. C'est des personnes en qui nous avons confiance. Du coup, on sent qu'on a, comme d'entrée de jeu, l'enfant a confiance en ses parents. D'entrée de jeu. Même les enfants, malheureusement, battus, etc., qui sont subissent de mauvais traitements, vous leur dites, qu'est-ce que tu dis de maman? Maman, elle est gentille. Donc, parce qu'il ne peut pas... c'est moi qui suis méchant. C'est parce que j'ai pas été sage à l'école. C'est pour ça que maman, elle est comme ça. Mais maman, elle est gentille. Vous voyez, donc, c'est... cet enfant-là, tout jeune, il ne voit que dans ses parents quelque chose de bienveillant. Et donc, il se met dans une situation, et dans une confiance, qui est assez normale. Maintenant, cette confiance-là, on voit bien que, dans notre vie, il y a des personnes à qui on a fait confiance et qui nous ont déçus. Des personnes qui nous ont blessés. Et du coup, comment agir? Est-ce que le piège, c'est de plus faire confiance, c'est tous les mêmes, etc. Donc du coup, c'est un peu là-dessus qu'on va réfléchir dans cette soirée sur la question de la loyauté et de la confiance. Quelles sont les formes de loyauté? Donc premier point, c'était la définition. Deuxième point, c'est quelles sont les formes de loyauté? Il peut y avoir une forme de loyauté à la parole que j'ai reçue. Non pas à la parole que j'ai donnée, mais à la parole que j'ai reçue. Hein, on a reçu quelque chose et on va répondre. Par exemple, je me pense à cette personne qui me disait « Ma vieille mère me dit « je compte sur toi après ma mort pour que ça aille bien dans la famille. » Vous voyez, donc, il y a une parole qui a été reçue. En quoi je dois honorer cette parole ou pas? En quoi cette parole m'engage ou pas? En quoi je dois redonner à cette maman une fois en quoi je dois quel est mon positionnement, comment je vais agir par rapport à ça? Il y a une loyauté patrimoniale par rapport au patrimoine. Ceux qui ont des maisons de famille, ceux qui ont des entreprises familiales, ceux qui ont des exploitations agricoles, par exemple, quand dans les cas de préparation au mariage, je suis très attentif à ça. Est-ce que je reprends l'exploitation agricole pour faire plaisir à mon père qui n'a eu de cesse de s'escrimer qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, pour pouvoir nous donner ça à nous? Voilà. Où est-ce que je me sens libre par rapport à cette... À dire, mais non, je ne crois pas que ce soit mon chemin. Hein, pareil des maisons de famille. Est-ce que je me sens par rapport à une maison de famille qui est depuis longtemps dans la famille, etc., redevable à mes parents et aux générations antérieures et aux ancêtres, parce que ça traverse les générations. Je sens que je prends sur moi le poids de la famille, donc le poids d'une responsabilité et de répondre. Alors, il y a des choses où, on verra, il y a des loyautés qui construisent, des gens qui sont très à l'aise. Des gens qui sont très à l'aise avec ça disent, oui ça, si ton père est boulanger et que reprendre la boulangerie a été le rêve de toute ta vie depuis que t'es gamin, c'est une loyauté, mais c'est une loyauté qui construit. Et ça, de ce point de là, il n'y a, pas de difficulté. Là où il y a une difficulté, c'est de dire, quand est-ce qu'il y a des conflits de loyauté, qu'on attend quelque chose de moi que je ne peux pas donner, parce que j'ai mis d'autres priorités. J'ai mis d'autres choses en avant, et du coup, parce que moi-même, j'ai ma vie. Je n'ai pas à répondre en permanence aux attentes des parents, ou aux attentes des frères et sœurs, ou aux attentes des amis, parce qu'il y a aussi une loyauté au niveau amical. Une loyauté, par exemple, aux rituels familiaux, surtout à l'approche de Noël. C'est un thème qui est en lien avec la famille, évidemment, qu'on veut traiter par rapport à Noël. Il y a des tas de rituels familiaux dans nos familles. Pour Noël, alors est-ce que c'est un coup sur deux? Est-ce que c'est quand pour ceux qui sont mariés, du coup un coup de la belle famille, etc. Est-ce que la question religieuse, mais aussi d'autres rituels familiaux, la question des vacances. Tu vois, ton père offre des vacances à toute la famille une semaine par an. On est tenu d'y être. Moi, je me rappelle un couple où j'ai accompagné, etc. Et puis, on est tenu d'y être à ça, il faut absolument qu'on soit là pour pouvoir vivre ça. Et il faut qu'on fasse tout ensemble. Alors là, c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de déroger, sinon il y a une forme de culpabilité. Nous qui nous sommes sacrifiés pour toi, tu ne nous rends pas en participant à tel ou tel événement familial. Rituels amicaux, c'est la même chose. Pour continuer à faire partie d'un groupe, il y en a qui exigent de vivre une appartenance, mais qui peut aller très loin, hein, une forme d'enfermement, de clan, un côté clanique, un côté qui fait que tu es dedans, mais si tu es dedans, du coup, tu n'es pas dehors. Je veux dire, ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas comme nous. Ne sont pas comme nous. C'est ceux de l'extérieur, c'est de l'extérieur. Nous, on est du clan. Et il y a des amitiés qui se forment comme ça. Je pense à une personne qui avait des amitiés depuis le lycée, etc. Ils se réunissaient régulièrement. Ils fêtaient les anniversaires les uns des autres. Mais ils étaient témoins de mariage les uns des autres. Voilà. Ensuite, bon, c'est... Et si tu n'es pas témoin de mariage, ou si tu choisis un autre témoin qui n'est pas de nous, tu trahis. Tu trahis la confiance qu'on t'a faite. Ensuite, il y a les loyautés par rapport à des entreprises ou par rapport à des institutions. Il y a au niveau professionnel, il y a des personnes ou des professions ou à l'intérieur même d'une profession, des manières de faire à l'intérieur du monde professionnel, où on fait comprendre à l'autre qu'il doit donner plus. Qu'il doit donner plus parce que, justement, c'est un privilège d'être là où vous êtes. Hein. Et donc, du coup, prenez bien conscience que le fait d'être un privilège, de nous, on attend quelque chose de votre part. Il peut y avoir une loyauté par rapport aussi à un parent défunt. Hein. On se sent l'obligation, par exemple... De faire perdurer la mémoire du parent, faire perdurer son œuvre, s'il avait mis en route un projet quelconque, ou la question patrimoniale aussi. On se sent aussi comme un devoir de s'occuper du parent qui est resté, qui est vivant, etc., donc qui est en fragilité. Donc voilà, c'est cette question-là de redonner, d'une certaine manière, à celui qui met deux parents qui est le plus en fragilité. La question de la loyauté à la pratique religieuse. Hein, qui dit loyauté dit loi, dit commandement, qu'il soit nouveau ou ancien. Hein. Et je sais que ça fait plaisir à mes amis quand je dis, ou à ma famille quand je dis que je participe à Speak, etc. Ils sont très rassurés. Vous êtes à Saint-Roch, dans des très bonnes mains, etc. Magnifique. Du coup, ça les apaise, du moins un temps. Et ensuite, du coup, je sais que ça fait plaisir. Du coup, je rentre dans cette dimension religieuse, non pas tant par une conviction personnelle, par une foi personnelle, une rencontre avec le Seigneur, que pour redonner à ma famille cette éducation que j'ai reçue, plus par devoir que par amour. Maintenant, la question, ça c'était un, la loyauté, deux, les formes de loyauté, les loyautés qui construisent, trois, on en a pas, j'en ai dit un petit mot, ce sont des lois. Ça nous construit quand ça nous fait devenir adultes. Ça nous construit quand ça nous met, quand ça ouvre des relations. Ça nous construit quand ça nous fait grandir en humanité. C'est ça les loyautés qui nous construisent. Bien sûr qu'on a vive des loyautés, de rendre et de rentrer dans une logique de don. Ça construit et c'est ça qui fait le lien social. C'est qu'on sent que voilà, on se donne les uns aux autres et le lien est essentiellement entre générations. Maintenant, quatrième point, il y a les loyautés toxiques. Les loyautés toxiques, ce sont des loyautés clivantes. Pardon, il y a plusieurs choses, c'est les loyautés clivantes. Soit c'est toi, mais si tu es fidèle à moi, si tu, ça veut dire que par rapport à l'autre, tu vas être, au contraire, tu vas le rejeter. Le cas le plus classique, le cas de divorce des parents. Le cas de divorce des parents, si tu m'aimes, moi ta mère, je veux comme preuve de ton amour le rejet de ton père. Ça, c'est toxique. Oui, c'est clivant, c'est-à-dire que je ne peux pas appartenir, ça me ferme des relations. Ça me ferme des relations. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est quelque chose auquel il faut être attentif, de renier l'autre pour prouver son attachement. Hein, du coup, choisir aussi la personne qui vous ouvre le plus. Tu vois, quelqu'un qui vous met dans une situation de culpabilité, parce que on va voir avec les conflits de loyauté, parce que ça vient interroger notre culpabilité. Mais quelqu'un qui vient appuyer là-dessus, alors que objectivement vous dites « Non, honore ton père et ta mère » ou « Rendre à ceux qui nous ont fait du bien, je fais ce que je peux avec le temps qui m'est imparti, etc. » Bon, honnêtement, face au Seigneur, vous dites « Non, c'est... » Mais du coup, si vous sentez que l'autre rentre dans une... Allumez les warnings tout de suite. Allumage de warning tout de suite. C'est-à-dire que la personne qui est là vous instrumentalise. Joue avec une corde sensible qui est très profonde, qui est tellement profonde qu'elle est là depuis le commencement de la vie chez l'enfant qui, comme je vous l'ai dit, veut faire plaisir à ses parents, et en jouant là-dessus, veut quelque part faire aboutir son propre projet, plus que d'être préoccupé sur ce qu'est votre bonheur et votre appel personnel. Et ça, je pense, c'est quelque chose de... Dès que vous voyez une loyauté toxique, dès que vous voyez qu'il y a une forme de culpabilité qui est en jeu. Et donc, parmi les loyautés toxiques, les loyautés clivantes. Une question qui n'est pas en lien directement avec la famille, mais moi j'y ai pensé, les questions liées à l'immigration. Sujet paisible s'il en est, les questions liées à l'immigration. J'ai jamais entendu quelqu'un les aborder sous cet aspect-là de la loyauté. Est-ce que je peux être à la fois portugais et est-ce que je peux être français? Mais en étant né en France, est-ce que je peux me réjouir que le Portugal gagne telle coupe qui oppose la France et donc soutenir? Voilà. Est-ce que alors Portugal m'a mettre. Maintenant, s'il y a un match France-Algérie, par exemple, alors c'est tout de suite un petit peu plus tendu. Est-ce que je peux me réjouir si je suis d'origine berbère ou de je sais pas quoi, de ce que sans pour autant renier. Vous voyez. Donc c'est intéressant de la question des loyautés et des loyautés excluantes et des loyautés clivantes. Ça va au-delà de la famille. Ça va au plan social et au plan aussi international. C'est tu es des nôtres, donc tu n'es pas des leurs. C'est ça, c'est vraiment la définition. Une autre loyauté toxique, c'est tout ce qu'on appelle le double lien. Ça veut dire quoi le double lien? Ou qu'on appelle aussi l'injonction paradoxale. Le double lien, c'est des personnes qu'on ne peut jamais satisfaire. Tu cherches à leur faire plaisir, mais c'est jamais assez. Exemple, ta maman t'offre deux cravates, une verte, une jaune. Tu mets la jaune, t'aimes pas la verte. Tu mets la verte, t'aimes pas la jaune. Ou quelqu'un qui, par exemple, dit ben, « Sois plus naturel, etc. » Alors, t'essayes d'être naturel. « Ah non, 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 pas comme ça. » Tu me dis « Sois naturel, pas comme ça. » Oui, ça, c'est des perses, ça fait rentrer, c'est ce qu'on appelle le double lien, c'est-à-dire que vous pouvez jamais vous... c'est vraiment toxique, parce que ça crée une dépendance et surtout ça crée un sentiment de « on n'est pas, je ne suis pas à la hauteur d'eux, des espérances de l'autre. » Ce qu'on appelle la question de... Une autre loyauté toxique, ce qu'on appelle la parentification. La parentification, c'est un mot utilisé dans la psychologie systémique et qui est assez intéressant, c'est pour être loyal, il faut qu'on te demande de devenir le parent de ton parent. C'est-à-dire que de prendre en charge l'autre et de devenir le parent de ton parent, sinon il y a quelque chose qui... il y a une exigence trop grande quelque part dans le don à vers ça, parce que bon, les parents sont les enfants, mais on n'a pas de devenir le parent de son parent. Donc, et de faire porter des choses, à l'autre alors qu'il n'a pas à les porter. Hein. Des décisions des parents que les parents ont prises, que je n'ai pas à prendre moi-même. Autre dernier point sur la question des loyautés toxiques, c'est les comparaisons. Et singulièrement, les comparaisons entre enfants ou les comparaisons entre cousins, etc. Il y a une jeune femme avec qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps qui me disait « Ma grand-mère n'avait de cesse de nous comparer entre cousins. » Et de dire « Tu vois, ton cousin est tel, regarde un peu les brillantes études qu'il a fait, regarde, etc. » Soi-disant, c'est pas dit. Toi, t'es pas là. Mais c'est ça, c'est là où c'est toxique. C'est, je me mets... du coup, on veut faire plaisir, etc. Mais du coup, on nous met en comparaison et du coup, de façon négative. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se... Quand vous avez ça, des réalités comme ça, dites-vous, warning d'abord, et ensuite dites-vous, est-ce que la personne me cherche à me faire grandir ou pas ? Toxique, ça veut dire quoi ? Je ne peux plus devenir adulte. Quelque part, l'autre me met la tête sous l'eau pour me garder sous sa coupe. Et cette dimension-là, il faut s'en méfier comme de la peste parce que c'est beaucoup plus fréquent que l'on peut, qu'on peut le voir. Cinquième, ça va jusque-là ? C'est bon ? C'est des choses que vous connaissez par cœur, c'est un, c'est des choses assez simples. Cinquième point, les conflits de loyauté. Comme je vous ai dit, il faut à un moment donné, il y a des choses où il faut choisir. Il faut choisir parce que ça commence, la loyauté consiste à donner de façon préférentielle à quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, comment, par exemple, typiquement, lors de la formation d'un couple, ces questions de conflits de loyauté sont interrogées, c'est évident. Parce que chacun arrive avec son système de loyauté, chacun arrive avec... les personnes en qui il a confiance et à qui il veut donner, etc. Mais aussi chacun doit se donner l'un à l'autre. Donc, de dire comment je fais pour que ça matche entre les deux. Et donc, la question du conflit de loyauté, c'est donner, parce qu'on donne de façon préférentielle dans la loyauté. Du coup, il y a des personnes à qui je ne vais pas pouvoir donner. Et souvent, on est pris entre deux groupes qui attendent de nous un retour, par exemple, entre deux personnes, entre deux amitiés, etc. Vivre une loyauté, ça veut dire choisir. Et choisir, vous le savez, c'est renoncer. Et donc, il y a des conflits de loyauté. Alors, toutes les tragédies classiques, hein, vous avez appris ça dans votre jeunesse et moi aussi, toutes les tragédies classiques, par exemple, Antigone de Sophocle, hein, que vous avez à la mémoire absolument, hein, qui veut donner une sépulture à son frère et défie son oncle, hein, Créon, parce que c'était contre la cité. Donc du coup, dans toutes les tragédies grecques, par exemple, c'est beaucoup fondé sur des conflits de loyauté. Shakespeare dans le roi Lear, par exemple, le roi Lear qui veut partager son royaume, mais je vais donner mon royaume à la personne, il a trois filles, et à celle qui me montre qu'elle a le plus d'amour pour moi. Et sa préférée, qui est Cordélia, qui elle est promise au roi de France, et qui dit, non, mon père, je vous aime, mais mon cœur ira au roi de France. Et donc, du coup, ce conflit de loyauté entre son père, du coup, qui la déshérite, et qui donne, alors que c'était la préférée de son père. Dans les films indiens, par exemple, la question des loyautés est énorme, parce que plus il y a une dimension communautaire, et plus il y a une dimension d'appartenir à, plus la question de la loyauté se pose. D'autant plus, par exemple, en Inde, où, encore maintenant, des personnes... c'est les parents qui choisissent, et qui choisissent le futur conjoint. Et donc, du coup, les films indiens sont, voilà, elle en aime un autre, mais les parents ont choisi, etc. C'est les films japonais, par exemple, sont... Parce que cette idée de corps, cette idée de faire part avec l'autre, cette idée de communauté est très forte dans ces cultures. Dans nos cultures à nous, européennes et occidentales, vous voyez beaucoup moins de films, par exemple, j'en ai pas qui me viennent à la mémoire, mais il peut y en avoir, mais qui soient sur... parce qu'on est beaucoup plus dans un individualisme. Chacun fait ce qu'il veut. Et donc, il y a moins de films qui traitent sur cette question de la loyauté comme le sujet du film. Et donc, voilà, c'est parce que c'est plus une dimension individuelle, personnelle. La conflit de loyauté, quand on est célibataire, ça, c'est une question. Quelque part, quand on est célibataire, ou couple sans enfant, voire couple stérile, on vit de façon beaucoup plus douloureuse la loyauté. Pourquoi ? Parce que quelle est la manière de redonner à ceux qui nous ont donné la vie, de redonner l'amour, si ce n'est de continuer la logique des générations ? Et donc, le fait de donner la vie fait que l'on va rendre aussi à ceux qui nous ont donné la vie. Mais quand on est dans une situation, par exemple, de célibat, plus ou moins choisi, on fixe, par exemple, la date des vacances. Tu as une sœur qui est mariée avec enfant. Tu peux être tranquille que ce n'est pas toi qui vas fixer l'agenda. Ça, c'est absolument clair. Ou tu as un couple sans enfant. Du coup, c'est pas toi non plus par rapport au couple de ton frère ou de ta sœur qui a des enfants, c'est eux qui vont être prioritaires dans la fixation de l'agenda familial pour les vacances. Vous voyez, et donc il y a quelque chose de... Et c'est vrai que ça repose, je trouve que ces conflits de loyauté se reposent beaucoup sur les filles, singulièrement, sachant en tout cas je l'ai beaucoup vu là, des filles qui se sentent responsables, qui se sentent responsables du lien dans leur famille, etc. Et le fait du célibat qui parfois se prolonge, ou le fait de ne pas avoir enfant, etc. Quel est le danger ? Le danger, c'est de se suradapter au désir des parents, pour faire plaisir, pour se dire « je suis aimable ». Je me suradapte. Donc, ce conflit de loyauté est assez, assez fréquent. Ces conflits de loyauté, ils viennent interroger, je vous l'ai dit, notre culpabilité. Comment je gère ma culpabilité ? Et sortir de cette culpabilité qui n'est pas bien placée, qui n'est pas en place. Et donc, ça demande tout un travail sur soi-même. Savoir dire non, parce que... et dire non, c'est dire je. Mais ce n'est pas parce que je dis je que je suis égoïste. Vous voyez, c'est toute cette... je peux dire non à une proposition, à une demande qui est formulée par ma famille, comme la personne qui a entendu sa vieille maman lui dire... après ma mort, ce sera à toi à qui je confie la famille, etc. Il peut très bien dire non. Mais ça, vous voyez, ça demande intérieurement d'avoir, au niveau de sa culpabilité, fait tout un travail et de dire, si je dis non, c'est pas parce que je suis un méchant, parce que je n'aime pas ma maman. Alors que j'ai 60 ans et que maman, elle a 90. Donc du coup, c'est pas ça. Mais il y a des personnes qui se sentent liées par une parole dite. Ils se sentent liées, et de façon tout à fait... pas du tout en place. Donc du coup, voilà, cette question de la loyauté vient interroger nos, notre culpabilité. Hein, et donc, du coup, cette question de la transmission, c'est intéressant de voir que le mot tradition, qui vient du latin tradere, a aussi fait le mot trahison. Et donc, quelque part, pour transmettre, il faut trahir. C'est-à-dire, pour transmettre, c'est ce qu'on avait vu l'année dernière, non, au début d'année, là, 2018, quitte ton père et ta mère, il y a quelque chose à quitter de ce que j'ai reçu, du connu, pour passer vers l'inconnu. Il y a quelque chose à quitter. Et j'honore en quittant. Mais ce fait de quitter peut paraître comme une trahison. Mais au fond, c'est une transmission. Oui, si je dis non, par exemple, à un héritage patrimonial, parce que ceci, parce que je suis tout simplement pas concerné, ce sera vu comme une trahison. Alors que vous voulez rentrer dans une transmission parce que vous pensez à vous-même ou à vos enfants ou à votre famille ou je ne sais. Vous voyez, donc, c'est intéressant, je trouve ça assez fécond pour l'intelligence et pour le cœur, de dire qu'il y a des choses qui... Il y a des choix à faire. Encore une fois, on ne peut jamais avoir de loyauté égale entre des personnes. Ça n'existe pas. Il y a un choix à faire. Il y a des choix qui décevront vos parents. Évidemment, dans le choix du conjoint, grosse pression par rapport à la loyauté. Grosse pression sur la loyauté parce qu'on se dit, voilà, on a une attente sur le conjoint, les parents ont une attente, et vous savez plus ou moins confusément l'attente qu'ils ont sur votre conjoint, et voilà, et vous présentez quelqu'un qui est aux antipodes, par exemple, au niveau social, ou au niveau religieux. Vous êtes une famille très religieuse, et la personne n'est pas pratiquante, ne va pas baptiser. Alors, comment je gère ça ? Du coup, je sais que je vais décevoir mes parents. Mais l'attachement que je porte à cet homme, à cette femme, qui n'est pas mon clone, n'a pas de le venir, voilà, c'est plus grand que ça. Du coup, ça fait partie des étapes de devenir adulte, de poser des choix qui, en conscience, je ne fais pas ça contre mes parents. C'est pas pour... d'une certaine manière, faire payer à mes parents quelque chose. Non, c'est que j'ai un profond amour pour cette personne-là, et cet amour profond que j'ai pour cette personne-là, qui se trouve être aux antipodes de mon modèle familial, je sais que ça va décevoir. Je sais que ça va décevoir. Du coup, assumez qu'il y a des choses qui déçoivent ceux qui vous ont fait du bien. Ça demande tout un travail, en tout cas sur soi-même, c'est assez intéressant. Hein, donc, alors, quand vous faites des choix comme ça, un conseil, ça peut être le choix d'un conjoint, ça peut être le choix d'un métier, pourquoi vous avez fait des grandes études, etc., et vos parents projettent sur vous des carrières, etc., et finalement, disent non, moi, c'est la plomberie qui m'intéresse. Bon, très bien, c'est la plomberie, ben, pourquoi on t'a payé une école à 10 000 euros l'année pendant 5 ans? Voilà, donc on peut se poser la question, en effet, mais j'aurais pu peut-être le dire plus tôt. Comment, quand tu fais des choix dont tu sais qu'ils ne répondent pas à ce qu'on attend de toi, il est important, pour ne pas fonder sa vie sur les débris de sa famille, je veux dire, sur les débris, on n'est jamais ex-fils ou ex-fille, ça n'existe pas. Il est important d'envoyer des signaux positifs, d'encouragement, montrant votre reconnaissance pour l'amour reçu. Si je fais ce choix-là du conjoint, du métier, éventuellement d'études, bon, vous n'êtes plus trop dans le domaine des études, mais bon, si je fais ce choix-là, ce n'est pas contre toi, papa, contre toi, maman. Moi, au contraire, je suis très reconnaissant de ce que j'ai reçu, mais c'est mon chemin. Et donc, c'est le fait de choisir son chemin n'est pas un manque au fait d'honorer son père et sa mère. Vous voyez, donc c'est... Mais je trouve ça demande toute une réflexion et ça demande de dire je. Ça demande de vivre au fond une altérité et d'accueillir l'altérité, c'est-à-dire d'avoir l'autre et autre que moi. Et pour un parent, c'est très difficile parce que c'est toujours t'es ma petite chérie, t'es mon petit chéri, t'es mon bébé, etc., etc. Non, c'est maman, j'ai 30 ans, donc du coup, plus ton bébé, c'est fini ça maintenant. Hein, bon, Donc voilà. Du coup, mais c'est très difficile pour un parent, je l'imagine, mais de laisser partir l'autre, de le laisser aller, hein, de le laisser devenir son alter ego, au fond. Voilà. Les conflits de loyauté n'ont pas donc que des choses négatives. Ça nous permet de dire je, parce qu'on a dit non, etc. De voir quelles sont nos priorités. Et voilà. Il peut y avoir, sixième point, des manques de loyauté. Des manques de loyauté, c'est-à-dire on peut être injuste. Il y a quelque chose, et donc quelque chose qui était dû à l'autre, de par son attention qu'il nous apportait, les parents, les amis, les frères et sœurs, etc., que sais-je. Et d'une certaine manière, parce que j'ai, par égoïsme, parce que l'égoïsme aussi existe, par manque de temps ou parce que je n'ai pas donné le temps nécessaire, eh bien du coup, je peux être injuste dans la loyauté que j'ai envers les autres. Hein, et ne pas donner, par exemple, privilégier, ça c'est souvent le cas, les amis aux parents, à la famille. Et donc, vraiment, un coup de téléphone tous les 3 mois, c'est vraiment pas beaucoup. Hein, à tel point que ses parents se demandent si tu es encore vivant. Bon, il n'y a pas d'excès dans la loyauté à ce niveau-là, hein, ni dans la dépendance. Mais du coup, il peut y avoir des manques de loyauté parce que c'est des manques d'amour. Mais du coup, les interroger, pourquoi est-ce que je vis ce manque? Pourquoi je n'appelle pas mes parents plus souvent? Pourquoi je ne visite pas plus? Ou les grands-parents, ou, etc. Ou tel ami? Qu'est-ce qui fait qu'au fond, j'ai mis cette distance? D'interroger cette distance et de voir bon, à quel point ça. Est-ce que ça peut être parce que il y a quelque chose, d'une certaine manière, où je sens que j'ai pu être mis sous une sorte de loyauté toxique, ou alors tout simplement il y a une forme d'égoïsme en moi et je sens qu'il y a de l'égoïsme et qu'il y a un manque d'amour. Septième point et dernier point, la loyauté avec Dieu. Loyauté avec Dieu, du coup, c'est quand on voit cette perspective-là, mais en rapport avec le Seigneur, on se dit, d'un amour qui est total et plaigné comme l'amour de Dieu pour nous, comment répondre? Parce que ça se pose, cette question-là. Comment faire pour faire face à un amour infini, sachant que nous-mêmes, nous sommes finis, hein? Comment rendre à Dieu lui-même qui nous a créés, qui a fait toutes choses, qui nous a aimés, qui s'est donné le premier, eh bien nous, comme disciples de Jésus, nous croyons que le Christ lui-même vient rendre toute chose, tout amour au Père par son offrande et par le don de lui-même. Et donc, quelle est notre manière de vivre notre loyauté par rapport au Seigneur? Parce qu'on peut être ainsi, tout ce que je vous ai dit là, bon, sauf la loyauté toxique, parce que là, je trouve que ça ne s'applique pas tellement. Il peut y avoir une loyauté toxique par rapport à certaines personnes dans l'Église, etc. Mais par rapport à Dieu lui-même. Mais on peut très bien se dire que je peux très bien manquer à la loyauté envers Dieu, tout simplement en ne prenant pas soin du temps de la prière, tout simplement en ne remerciant pas. Et notre manière de rendre au Seigneur ce qu'il nous a donné, c'est de nous greffer sur le Christ. C'est on se greffe sur le Seigneur. Et comment est-ce qu'on se greffe sur le Seigneur? On se greffe sur le Seigneur par les sacrements, par la prière, par la parole. On se greffe comme ça. C'est notre manière aussi. Nous, on est pécheurs par définition. On est fini et on est face à un amour infini. On ne pourra jamais rendre à égalité. C'est absolument impossible. Puis il n'y a pas de mesure, on ne peut pas mesurer l'égalité, ça n'a aucun sens. Même dans les loyautés humaines, il n'y a pas de mesureur d'égalité. Mais en revanche, de dire que, d'interroger là-dessus, est-ce que en moi, il y a quelque chose qui fait que je manque à la loyauté avec le Seigneur? Est-ce que en moi, il y a une sorte de paresse spirituelle ou d'indifférence? Ou de pas se laisser, de manque d'ouverture de cœur, de pas prendre conscience à quel point le don du Christ sur la croix essentiellement est un don plénier, et donc un don qui sur lequel je vais me greffer par le baptême et par tous les sacrements pour pouvoir redonner à Dieu ce qui lui est dû, hein, c'est-à-dire une honneur et je trouve que cette loyauté avec le Seigneur, c'est vraiment la grande altérité. Je trouve que c'est parce que je vis le lien avec Dieu qui est le tout autre. Du coup, ça, et que cette relation-là avec Dieu, elle me met dans une autre dimension, elle me met dans une... du coup, ça vient permettre aussi toutes les autres formes d'altérité. Ça me permet aussi de ne pas tomber dans une forme de domination, de manipulation de l'autre, de toxicité, voilà. Parce que je suis dans l'altérité avec l'autre est autre que moi et il n'a pas à devenir moi. Et où est-ce que ça se vit le plus, ça? C'est dans la relation avec Dieu. Dans la relation avec Dieu, il est autre que moi et je n'ai pas à devenir lui. Contrairement à la tentation du démon, vous serez comme des dieux. Vous voyez, c'est intéressant de faire le lien, j'y pense un instant. Vous serez comme des dieux. Mais non, ça c'est lors de la tentation. Le Seigneur, c'est celui qui nous respecte dans notre altérité. Hein, nous serons, après notre mort, comme personne humaine. On n'est pas, contrairement à certaines, surtout philosophies asiatiques, etc., on ne se fond pas dans le grand tout. Hein, on reste soi-même. Hein, donc je trouve ça intéressant de faire cet exercice par rapport au Seigneur, puis de nous interroger là-dessus. Alors j'aimerais justement, pour terminer, vous donner, on va prendre 2-3 minutes de silence, et je vais vous poser quelques questions, et chacun y répond intérieurement. Quelles sont les loyautés qui m'ont construit jusqu'à présent? Vous pouvez vous en donner 3. Est-ce que j'ai vécu ou est-ce que je vis des loyautés toxiques? Où je ne me sens pas libre. Où est-ce que j'en suis, troisième question, de ma loyauté avec le Seigneur, de cette réponse d'amour à l'amour qu'il m'a donné. Donc je vous propose qu'on prenne 2-3 minutes de silence pour donc ces 3 questions. Quelles sont les loyautés qui m'ont construit et qui me construisent, où j'ai plaisir à redonner et je sens vraiment que je suis respecté dans mon don et que ça me fait devenir adulte et de dire « je ». Essayez d'en trouver 2 ou 3, autour de, amical, dans le milieu professionnel, dans les différentes formes de loyauté que je vous ai données au début. Quelles sont les loyautés toxiques, au contraire, desquelles je suis, ou que j'ai subi, mais desquelles je devrais m'éloigner? Et par rapport à Dieu, où est-ce que j'en suis? Voilà, donc on se prend 2-3 secondes ensemble et en silence pour pouvoir y réfléchir. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Parce que ça appelle un certain nombre de choses. Alors, si j'étais dans une loyauté, une dimension toxique, une relation toxique, la question de dire, voilà, est-ce que quand j'ai mes parents, bon, j'ai pris l'exemple de parents qui maltraitants, etc., est-ce que rejeter le parent, disons, mettre de la distance avec ce parent-là, est-ce que c'est un manque de loyauté? Non, je veux dire, c'est presque une urgence. Si vous voulez devenir vous-même, Il y a des personnes toxiques, malheureusement, dans la vie, desquelles il faut s'éloigner. Ça veut dire que j'ai à prendre une distance. Et là, il est clair que ce n'est pas un manque de loyauté. Justement, ce serait une forme de culpabilisation. Tu ne me rends pas, du coup, c'est pas, tu n'es pas loyal envers le Seigneur. Non. C'est-à-dire, la loyauté envers Dieu, on a dit, Dieu respecte notre altérité. Le fait qu'on soit autre que lui, le fait. Voilà. Et au contraire, je trouve que si on est dans un cas où on sait qu'on est sous emprise, qu'on est dans. Je vous rappelle. On avait fait tout un topo sur la manipulation, etc. Dans une forme de maltraitance psychologique de la part de ses parents ou d'excès, ben, c'est bien de s'en éloigner. Mais ce n'est pas facile. Ça demande une vraie. C'est pas facile. Oui. Ah oui, est-ce qu'une situation toxique? Oui. Non, j'allais dire, c'est même à ces personnes-là, quelque part, vous leur. C'est une manière de les aimer que de mettre de la distance. Même s'ils sont responsables, même si. Honore ton père et ta mère, va avec quitte ton père et ta mère. Ça va les deux ensemble. Quitter n'est pas. N'est pas non, quitter, c'est honorer. Donc, a fortiori, dans une relation, une situation toxique, de mettre de la distance et de dire, je ne suis plus toi. On a vu la toxicité de la parentification. On te nomme, on te fait responsable de ton parent. Mais non. Ça, c'est pas de la loyauté, c'est de la manipulation. Du coup, ça, c'est hors de question. Donc, si je découvre ça, que progressivement, où je me suis mis dans la tête, parfois les enfants se mettent des nœuds au cerveau, je me suis mis dans la tête que j'étais le responsable de l'unité familiale. Bon, pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce qu'on me l'a dit. Ou je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je sois toujours gentille, ou toujours gentille. Du coup, j'ai pas le droit, par exemple, j'ai pas le droit à penser autrement. Ou je sens que je n'ai pas le droit à diverger. La loyauté, c'est parfois aussi dire non pour dire je. Et c'est pas. Il faut bien comprendre, c'est pas un manque d'amour, parce que c'est juste que la relation elle-même ou la situation elle-même, il faut s'en éloigner. Il faut faire comprendre. Et si l'autre ne comprend pas, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui ont le statut de victime, c'est elles les victimes en permanence, et c'est vous le coupable. Eh bien, si ces personnes-là, il faut s'en éloigner. Vous construirez pas votre vie, sinon. Vous construirez. Alors, c'est très douloureux. Et je vous invite dans une situation comme ça à vous faire accompagner. Parce que c'est pas quelque chose de pas du tout simple. Mais rester comme ça, c'est rester sous la coupe de l'autre. Et évidemment, ça ne vous fera pas grandir. Et donc, c'est pas non plus l'honorer. Oui. Alors, choisir, se renoncer, donc dans le cadre d'un couple qui est de culture différente, etc., ce sera ensuite au couple à dire qu'est-ce que. Ils vont eux-mêmes redéfinir le contour de leur famille de par leurs origines différentes. Ils portent des loyautés différentes. Et du coup, ils vont redéfinir. Mais du coup, il y a des choses auxquelles ils vont adhérer, ils se sentent bien. Il y a des choses auxquelles ils ne vont pas adhérer. Parce qu'ils sentent que non, ça va. Ça ne construit pas ma famille, ça ne va pas dans le sens. Mais du coup, quand on prend des décisions qui sont loin des attentes des parents, c'est ce que je vous ai dit, c'est important d'envoyer des signaux positifs aux parents, de dire, c'est pas contre vous, c'est juste que moi je suis différent. Alors ça prend du temps pour un parent, pour accepter d'être différent, que l'enfant soit différent, je prends juste un autre chemin, mais c'est pas contre vous. Voilà, c'est pas. Voilà, et ça, je pense que. Et du coup, ce sera. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de réponse universelle, parce que c'est au couple à dire la langue qu'on parlera, la question des traditions familiales, voire la question des traditions religieuses, etc. Comment ça va se vivre dans le couple? C'est tout l'enjeu de la préparation au mariage, par exemple, dans un couple, hein, de dire, voilà, donc c'est. Là, typiquement, quand la personne est d'une autre nationalité, d'une autre culture, ça joue à fond. D'autres questions? Oui. À comment on peut être la loyauté toxique de quelqu'un? Ah, si on se trouve, on l'est, on ne le sait pas. Oui, d'accord, c'est possible, oui. Alors, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Est-ce qu'on peut être nous-mêmes dans une loyauté toxique par rapport à d'autres personnes? Oui, potentiellement, oui. Un signe qui... Ben déjà, de se poser la question, ça veut dire que vous n'êtes pas si toxique que ça. Parce que le toxique, il ne se pose même pas la question. Donc détendez-vous, détends-toi, etc. Respire par le nez, c'est comme chez le dentiste. Relâche le plexus, là, donc tout va bien. Parce que si on se pose la question, maintenant, est-ce qu'il y a des personnes que j'instrumentalise? Est-ce qu'il y a des personnes, au fond, ça m'arrange bien si, hein, par exemple, je ne sais pas, j'ai mon permis mais pas de voiture, et toi, tu as une voiture mais pas ton permis. Donc du coup, est-ce que par exemple, cette amitié qu'on a n'est pas mue par le fait de l'utilité, plus que vraiment par un attachement sincère? Voilà, c'est... Et est-ce que moi-même, je me positionne comme victime? Ah mais non, ça fait trop longtemps, pourquoi tu m'as pas fait ça? Pourquoi? Ouais, des personnes, mais il en faut toujours plus. Est-ce que je me positionne moi-même dans cette attitude-là de me dire de culpabiliser les autres parce qu'ils n'ont pas assez donné? Ça peut. Il faut faire son examen de conscience, certainement. Hein. Voilà, je pense que ces deux, trois questions, ça peut vous aider à dire, voilà, est-ce que moi-même, je peux être toxique pour d'autres? Est-ce que je fais... Ou alors, je fais rentrer l'autre dans une forme de dépendance. Je veux qu'il soit mon ami exclusif. Hein, quelque chose un peu fusionnel, un peu immature, un peu... Voilà, je me... voilà, et je ne l'autorise pas. Et si tu vas aller ailleurs, bah, du coup, tu n'es plus mon ami. Tout ça, c'est des immaturités. Tout ça, c'est au fond des blessures derrière ça. C'est des blessures de personnes qui ont ou eu cet exemple-là en famille, ou il y a quelque chose qui n'est pas en place dans leur manière des relations. Parce que loyauté, ça voit avec toutes nos relations. Il y a des choses qui ne sont pas en place dans notre manière de voir les relations. Donc ça peut être l'occasion de se mettre à plat, mais déjà de se poser la question, c'est déjà un bon commencement. D'autres questions? Oui. Alors les loyautés envers frères et sœurs, j'ai un petit peu dit, etc., mais on peut être mis ou se mettre soi-même comme responsable de son frère ou de sa sœur, en particulier quand il est en situation de fragilité. Et du coup, quand l'autre est en situation de fragilité, fragilité physique, avec la maladie, avec le handicap, etc., fragilité économique, fragilité professionnelle, psychologique, etc., l'autre est en situation... Du coup, je me suis... toi-même tu penses que c'est à toi de faire les choses. Et du coup, oui, là aussi, est-ce que c'est une loyauté qui construit parce qu'entre frères et sœurs, on se fait du bien, mais ou est-ce que c'est une loyauté qui enferme? C'est toujours un peu la même question qui a à se poser. Donc oui, j'ai une forme de loyauté, mais de redonner, parce qu'entre frères et sœurs, il y a une vraie affection, mais je ne suis pas, l'autre est autre que moi. Je ne suis pas responsable de lui. S'il y a besoin d'un coup de main, s'il y a besoin, etc., on est solidaire en famille, etc., mais l'autre est autre que moi. Et ça, c'est... Faut bien se le... En nous, il y a une forme de toute-puissance. Je voudrais que l'autre soit comme moi. Alors ça, c'est toxique. Parce que je veux l'autre à mon image et ressemblance. Ça, c'est toxique. Vous voyez, ça, c'est... Du coup, mais si l'autre est... il y a une vraie affection, etc., même si je ne suis pas d'accord avec les choix de mon frère, de ma sœur, exemple, ça peut arriver, hein, les choix lors de la fondation d'un couple, par exemple, où on est plutôt perplexe, où on est bon, ou les choix professionnels, ou les choix, etc. Je ne suis pas d'accord. Bon, mais il a aussi le droit d'exister, ou elle a aussi le droit d'exister. Du coup, vivre la loyauté dans ces cas-là, c'est accueillir le chemin de l'autre, et qui n'est pas mon chemin, et qui n'a pas l'être. Oui. Alors, est-ce qu'on peut, à une personne qui rentre, ben ça je vous invite à, on ne va pas faire le topo sur les manipulateurs, parce que c'est cette année ou l'année dernière que je l'ai donné, il y a des personnes qui ne peuvent pas se rendre compte. C'est impossible. Voilà. Quelqu'un qui est vraiment, ce qu'on appelle, c'est très à la mode, pervers narcissique, c'est-à-dire qui se sent sur lui-même, et jouit du fait de voir l'autre souffrir, c'est ça le pervers. Il y a une jouissance dans le voir l'autre. Il y a une telle faille dans la construction de la personne qu'elle ne peut pas changer. Et donc c'est s'épuiser à vouloir changer l'autre. Alors là, ça, de façon générale, c'est s'épuiser. Et puis c'est peut-être rentrer dans une forme de toute puissance. Au nom de quoi je vais changer l'autre? Parce que, et puis une personne comme ça, souvent c'est des gens assez intelligents en plus, donc ils mettent leur intelligence pour planquer leurs blessures, et du coup, ils arriveront toujours à te démontrer que donc au fond c'est toi le problème. Non, c'est toi le problème, tu ne t'as pas réalisé. Et si pour tenter qu'on n'a pas une grosse confiance en soi, etc., et que là du coup on se dit, oui, ben oui, c'est peut-être vrai, c'est peut-être moi le problème, ça, non. Donc c'est s'épuiser en vain que de vouloir... parfois ouvrir les yeux à des personnes qui sont dans une sorte de toxicité, c'est s'épuiser. Oui, oui. Mais parfois, le courage, c'est de fuir. Le courage, c'est de fuir. Oui, c'est une fuite, mais il faut fuir. Parce que c'est... on n'a pas affronté ça. Parce qu'il y a aussi d'autres choses dans ta vie, etc., à construire, que d'être focus, et surtout l'énergie que ça prend, d'être focus sur cette relation.